Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bienvenue dans On the Verge, le podcast de la sexualité masculine. C'est la première fois que je reçois un invité qui est asexuel. J'étais ravie de rencontrer le doux Christophe. Cet homme souriant de 45 ans avait à cœur de partager son histoire, son parcours et les questionnements qui l'ont amené à nommer et identifier cette orientation qui toucherait 1% de la population française, la sexualité. Cette dernière est définie comme l'orientation sexuelle d'une personne, donc asexuelle, qui ne ressent pas ou peu d'attirance sexuelle pour une autre personne. De son histoire, Christophe raconte le décalage ressenti très rapidement au début de son adolescence. Au début de sa vingtaine, il comprend bien qu'il n'est pas très porté sur la chose et s'enfonce dans quelques croyances qui suffiront un temps à expliquer son manque d'intérêt et que ses rares rapports sexuels sont peu satisfaisants, voire agréables. Puis au début de sa trentaine, la rencontre avec son épouse va changer la donne. Christophe est toujours marié à cette femme qu'il aime, avec qui il vit une très belle relation de couple. Toutefois, avec elle, il a la possibilité de s'interroger davantage sur ce manque d'intérêt et de désir. C'est une histoire effectivement de manque de désir. Il aime profondément sa femme, mais il est totalement étranger au désir sexuel, à la tension, le besoin de sensualité et de rapports charnels. Il va consulter plusieurs professionnels, faire des examens, qui ne constatent rien de médical, et c'est en se renseignant par lui-même qu'il va comprendre et nommer son asexualité. Aujourd'hui, Christophe est encore en réflexion sur ce sujet complexe, mais avance sur son chemin, et tend à une forme de sérénité et d'alignement avec qui il est. Dans cet épisode, il est surtout question d'écoute et de respect de soi. Merci infiniment à Christophe pour sa confiance et d'être venu à mon micro. J'ai pour ma part trouvé très intéressant de mettre la lumière sur la difficulté de s'épanouir dans une société si sexualisée lorsqu'on est asexuel. N'hésitez pas à venir sur Discord ou sur Instagram pour en discuter. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pour ce nouvel épisode, je suis avec Christophe. Ça va Christophe ?
Oui, ça va.
Alors Christophe, t'es en face de moi ?
Oui.
Sur un canapé qui n'est pas rose mais qui est bleu.
Oui.
Il y a eu un petit changement de décor pour coller à nos agendas respectifs. Tu m'as dit que tu as écouté tous les épisodes, donc tu connais la fameuse question que je pose à tous mes invités. Quel est ton tout premier souvenir lié à la sexualité ?
Mon tout premier souvenir, c'est à l'école. C'est en CE1, donc je sais pas, c'est 7 ans à peu près.
Ouais, 8 ans, 7-8 ans.
Ouais, c'est ça. Et c'est je touche pipi.
Voisin, voisine, cousin, cousine.
Non, à l'école.
À l'école,
dans
ok.
Dans les toilettes de l'école maternelle.
Ok. T'avais eu un... Donc, vous regardez, vous jouez, vous touchez.
On s'attrape dans la cour et après, on va dans les toilettes et on se montre.
Ok.
On se montre les zizi. Et...
T'avais ouais. eu un peu d'éducation à la maison. Donc, toi, t'es né fin des années 70. Mmh. T'as eu un petit peu d'éducation à la maison sur le sujet ?
Absolument aucune. Non, rien. On n'en parlait pas.
Ouais.
Non, j'ai vraiment ni petit ni à l'adolescence, mais vraiment rien.
Et peut-être des cousins, cousines, copains, copines, non, personne ?
Non.
D'accord, donc là vous jouez, c'est vraiment les jeux d'enfants, découvertes.
Découvertes, il n'y a pas d'enjeu de la sexualité
pas
derrière,
du tout, ouais.
c'est vraiment oui. On regarde, c'est de la curiosité, c'est vraiment des jeux de petits.
Là, à ce moment-là, pour toi, ça représente vraiment l'attrait du jeu et comment ça va grandir dans la cour de récréation.
C'était assez peu présent, en fait.
Ouais.
Franchement, à l'école maternelle et primaire, on n'était pas du tout là-dedans.
L'innocence.
On était, je sais pas, à la campagne. C'était
au grand air. On se baisse juste de temps en temps de slip pour se marrer et puis
c'est
voilà.
C'est ça, c'est tout.
donc une enfance plutôt heureuse, joyeuse.
Ouais.
T'as des frères et sœurs ?
J'ai deux sœurs,
okay.
Une grande et une petite.
D'accord. Ah, t'es au milieu,
ouais.
L'enfant du milieu. je te fais un check parce que vraiment, cette place, aïe, aïe, aïe. Donc, t'arrives au collège, début de puberté, pas encore ?
Si, début de puberté, ouais.
Ça se passe comment pour toi ?
Pas top, j'ai pas un bon souvenir. Les années collège, les années lycée, pour moi, c'est pas des super années. Tant, ouais, primaire, maternelle, là, c'est vraiment les années de l'insouciance,
ouais,
les années vraiment top. Et à partir de ouais, collège, lycée, je sais pas, pas bien dans la peau,
comment
un
tu
peu
gères
gêné
ça
par le corps.
Comment tu le gères, justement, ce corps qui change?
Pas très bien, ouais. Mais comment je le gère, je sais pas, je... J'ai fait des malaises à ce moment-là, c'est marrant.
Des malaises.
J'ai fait des malaises, je suis tombé dans les pommes et on n'a jamais su ce que c'était. Et bah, tu vois, tu me demandes comment on gère, bah, peut-être que le corps il se met en off.
Genre, j'ai pas envie de gérer.
ouais, c'est ça.
C'était à des moments précis ou c'était, ça, venait, ça survenait
Ouais, les, de me sentir mal après, c'était, ça pouvait être, tu vois, quand j'étais dans la queue pour aller à la cantine le midi, quand il y avait trop de monde et tout, ça commençait à tourner.
Genre un peu d'espèce de agoraphobie, de trop de monde,
ouais,
de machin.
Ouais,
ouais,
ouais, ouais, il pouvait y avoir un peu de ça. Donc,
Et tu l'as vécu comment? Parce que le fait de tomber dans les pommes, il y a quelque chose d'un peu de fragilité. Et ça, c'est quelque chose, ça va, t'as arrivé à le gérer vis-à-vis des copains, etc.
Ouais, j'en parlais pas trop. En fait, je suis jamais tombé dans les pommes avec
les copains.
Ah
oui, t'es arrivé à...
C'était dans la famille que je tombais dans les pommes.
Ah, c'est marrant, c'est intéressant, hein. Et t'étais un jeune ado comment, justement?
Assez introverti.
Ouais.
Bon, je parlais pas beaucoup de moi, forcément. Sur les choses intimes, encore moins. Et je sentais un décalage, en fait. À partir de l'adolescence, vraiment sur l'école primaire et maternelle, j'étais vraiment bien. J'avais un copain, en fait, j'ai eu un super pote, le super pote, depuis tout petit,
BFF,
après le CP,
ouais, ouais.
Et jusqu'au bac. On a passé toutes nos années ensemble.
En binôme.
En binôme.
Vous êtes toujours amis aujourd'hui?
Ouais.
Ah, c'est chouette,
trop bien.
Ça.
C'est trop, trop bien.
Ah oui, donc
ouais,
vraiment, ouais. Ah oui, c'est une belle amitié,
dis
donc.
Il habite Paris, moi j'habite beaucoup plus loin, mais on a gardé contact.
C'est super. Ah ouais, bah, c'est une amitié de 35 ans, c'est incroyable.
Ouais.
Ok, donc du coup, tu passes effectivement ce collège un peu difficilement. Est-ce que tes copains, justement, les autres potes, commencent à regarder les filles? Est-ce que les garçons, est-ce que toi, tu te positionnes? Comment tu évolues sur ces premiers moments où les hormones commencent à faire leur taf, justement?
Bah, je pense que les hormones, elles n'ont pas fait beaucoup leur taf chez moi. J'ai l'impression que c'était pas... En fait, c'était pas un sujet, quand je te dis que je me sentais en décalage,
ouais,
c'est que je sentais que ça commençait à devenir un sujet de conversation, soit chez les mecs à côté, ou quand on était avec des groupes, avec des filles, que ça commençait à discuter de ça. Mais justement, c'est là où je dis je me sentais pas concerné.
Ça t'intéressait pas?
C'est pas que ça m'intéressait pas, c'est que je ressentais pas. C'était pas un sujet... tu vois, tu me disais, c'est les hormones qui commencent à...
Ouais.
Bah, c'est comme si j'avais jamais eu cette montée-là. Et du coup, je voyais, ils en parlaient comme si c'était un truc extraordinaire. Comme
ouais,
si c'était...
T'étais en observation, quelque chose que toi, tu vivais
ouais,
pas. Quoi.
Je le vivais pas. Et c'est là où je te dis, je me sentais un peu à l'écart.
Ouais.
Et ça faisait aussi un peu comme si... moi-même, j'étais à côté de mon existence, tu vois. Je m'observais un peu et je ressentais pas forcément les choses. Et c'était et je me demande s'il y avait pas un peu de ça, tu vois, qui était perturbant quand je dis j'ai mal vécu le collège et le lycée. Je pense que ça a participé de ça.
De ne pas être ancré dans ton adolescence et de le faire
ouais,
un peu à côté.
Ouais.
Ouais, je comprends.
Et ce qui était... j'étais dans des groupes, tu vois.
Ouais.
Bah, j'avais toujours mon pote.
Mais
tu étais
social avec les autres potes, etc. Vous étiez...
Ouais. J'étais pas exclu. C'était pas cette question-là. Mais je me sentais différent et pas vivre la même chose que les autres. Et ça, je le ressentais pas.
Oui, puis j'imagine qu'en plus, à ce moment-là, t'as pas... les mots, t'as pas la capacité émotionnelle de le nommer. Enfin, surtout, c'était à des époques où on n'était pas autant à l'écoute, que ce soit les parents, ou que ce soit même l'adolescent, où aujourd'hui, on peut demander à l'adolescent de nommer, d'exprimer, d'expliquer. Là, effectivement, bon, à l'époque, c'était, voilà, ça passait un peu rapidement. T'en parlais avec ton meilleur ami?
Pas du tout. C'est des sujets qu'on n'a jamais abordés. La question de la sexualité, même la question des copines, mais jamais
on en a parlé.
Au collège,
lycée, jamais?
Non.
Ok. Aujourd'hui, ici?
Avec lui, non, par exemple.
Ah ouais? Aujourd'hui aussi, vous n'en parlez pas?
Non.
Vous parlez de quoi? Non, je rigole, il y a d'autres trucs. Ça fait vraiment... Non, bien sûr. Donc, vous avez une amitié qui est basée sur toute autre chose que vos... Bon, et c'est quand même que... Enfin, on va spoiler un peu, mais que tu es marié aujourd'hui.
Ouais, il était invité au mariage,
évidemment.
J'étais invité à son mariage.
J'imagine, mais vous ne parlez pas de vos intimités respectives?
Pas celle-là, en tout cas.
Ok.
Ouais,
d'accord.
Pas celle-là.
Je comprends. Donc, du coup, tu traverses effectivement ce collège et ce lycée avec ce fossé qui se creuse et ce décalage, comme tu le nommes. Donc, ça, c'est tout ton collège, tout ton lycée. Tu grandis,
ouais.
Tu commences à être un jeune homme, etc. Mmh. À quel moment ça devient vraiment une problématique pour toi ?
J'ai une première copine vers 17 ans.
Donc, fin de terminale.
C'est en première. J'ai un repère, c'est en première en fait.
Okay.
C'est la première copine, tu vois, que j'embrasse.
Et ça se fait comment ? Ça se fait...
On jouait au tennis, on faisait un entraînement. Et je lui écrivais des lettres.
Trop mignon. Et oui, c'est une époque où les jeunes n'avaient pas de téléphone portable au lycée. Exactement.
Et ça, ouais, ça a commencé comme ça. Et, okay.
Tu l'as trouvé jolie, elle te plaisait. Et donc,
ouais,
donc vous vous embrassez. Mmh. Là, j'imagine, c'est un super souvenir pour toi.
Ouais. C'est vraiment quelqu'un que je connais depuis longtemps, mais que je fréquentais pas beaucoup et tout. Et là, pour moi, de pouvoir arriver à échanger et de pouvoir l'embrasser derrière, ce truc, c'est... Wow.
Et donc, ça devient ta petite amie.
Ouais.
Et en termes de ressenti, il se passe quoi ? Vous vous embrassez.
Ouais.
Mais est-ce que, là, t'as 17 ans, c'est le moment où, généralement, c'est un peu les premiers, les premiers flirts un peu plus poussés. Mmh. Est-ce que vous allez dans cette direction, tous les deux ?
Eh bah, ben, non. Pas du tout, même. C'est de mon fait pour le coup là. Je pense que c'est vraiment moi, tu sais, quand je dis j'avais pas cet élan,
t'avais pas
et en fait
c'était pas naturel.
C'est une histoire qui a duré assez peu de temps en fait, et elle y a mis fin, et quand elle m'a dit pourquoi, elle me disait qu'elle s'ennuyait. Et c'est rétrospectivement où je me suis dit, bah ouais, à cet âge-là, quand on s'ennuie, je pense que c'est parce qu'elle attendait autre chose, relation avec un mec à 17 ans. Et comme je te disais, que j'ai pas cet élan, j'avais pas ce désir. J'allais pas vers elle, pour moi, on s'embrassait, c'était...
Et c'était déjà assez pour toi.
Ouais.
Et mais t'as raison, c'est ça, c'est rétrospectivement, parce que tu peux pas te douter à 17 ans, toi tu fais les choses avec ton émotion, ton ressenti, mais effectivement si t'avais pas cette, comme tu dis, cet élan et cette envie, elle devait attendre que ça, puisque c'est vraiment un moment donné où quand t'es une jeune femme à 17 ans, et puis surtout, encore une fois, à une époque, mais c'est vrai que c'était quand même assez différent. C'était les garçons qui faisaient le premier pas, c'était les garçons qui étaient quand même plutôt dans la proposition. Ouais. Donc j'imagine chagrin d'amour.
Ah oui.
Très
moi,
triste.
Oui.
Ouais,
parce que
l'intensité émotionnelle y était de toute façon.
Ah oui, oui.
Ouais,
vraiment. Donc du coup, c'était très dur.
Bah, j'imagine.
Et comme je te disais, c'est rétrospectivement que j'ai compris. À ce moment-là, j'ai vraiment pris le. J'ai pas d'intérêt. J'intéresse personne.
D'accord.
Puisqu'elle m'a dit qu'elle s'ennuyait.
Oui, tu t'es dit que c'était ta personnalité ou toi qui étais ennuyante.
Ouais. Et du coup, je me suis un peu construit aussi avec ça. Et ça, c'était ces premiers chagrins d'amour. Je me construis aussi avec ce premier retour-là.
Ah bah, ça peut conditionner, effectivement.
Et ça a été un peu rude.
Là, tu arrives dans tes études.
Mm-hmm.
Comment tu fais un parcours long, un parcours plus court, t'es en fac?
Ouais, alors je fais une année de prépa et après l'année
t'as
de prépa,
temps,
et bah figure-toi que si.
Ah ouais, bah dis donc.
Première vraie histoire d'amour, l'année de prépa. Ouais.
Ah bah
rencontré dans la classe.
Ok.
Et assez rapidement, en début d'année, il y a le crush.
Ok.
Une évidence, on sort ensemble.
Parce que pour qu'on comprenne bien, t'as le désir amoureux,
ouais.
Le sentiment,
ouais.
Mais par contre, quand il faut passer à l'étape, on va dire, charnelle, il se passe pas.
Ça se passe pas.
Donc avec cette jeune femme, pareil, vous tombez amoureux.
Oui.
Vous sortez ensemble.
On sort ensemble. Ça dure plusieurs mois, puisque je pense, vers octobre, assez rapidement après la rentrée, on sort ensemble. Et l'histoire se termine au mois de juin suivant.
Ok.
Et il s'est rien passé. S'est rien passé. Et là, par contre, et ça va revenir plusieurs fois, elle non plus me disait qu'elle n'était pas prête.
D'accord. Donc là, il y a toi qui n'es pas dans une... on va dire, un désir charnel et il n'y a pas cette attraction. Mais de l'autre côté, ta partenaire à ce moment-là, celle de la prépa par exemple, n'était pas prête. Elle n'avait pas eu de relation sexuelle.
Non.
Et donc, c'était trop tôt pour elle.
Ouais.
Donc, du coup, ça reste chaste entre vous.
Complètement chaste. Okay. Alors, il y a des caresses, on dort dans le même lit, on est proche, mais...
Il n'y a pas d'acte sexuel.
Non, pas du tout.
D'action sexuelle, en tout cas.
Il n'y a pas d'action sexuelle. Même les caresses restent
chaste. C'est un mot qu'on va utiliser.
Ce qui est curieux, c'est que quand je refais un peu mon parcours comme ça, c'est pas la seule femme avec qui j'ai été, avec qui j'ai pas eu une relation et... Pas seulement de mon fait, tu vois, pas seulement parce que moi j'avais pas cette attirance, mais c'est parce que elle à ce moment-là soit était pas prête, soit n'en avait pas envie, soit avait des problèmes de santé.
Ah oui.
Et c'est très curieux, c'est un truc, tu vois, ça traverse, mais j'arrive pas à le comprendre, mais est-ce qu'il y a des radars ?
Sur combien de partenaires à peu près ?
Alors j'ai eu très peu de partenaires,
mais
3 ou 4.
D'accord, mais elles ont toutes eu une raison.
Ouais.
Qui ont fait qu'elles-mêmes n'étaient pas dans une demande d'une sexualité avec toi. Est-ce que, parce que quand tu m'as écrit sur le formulaire, etc., ce que j'ai trouvé intéressant, parce que c'est la première fois à ce micro qu'un homme qui se définit, donc c'est ce que tu m'as dit que tu peux le dire, ton orientation serait
asexuelle.
C'était hétérosexuel, puisque tu es marié à une femme que tu aimes, etc. Mais aujourd'hui, avec effectivement cette. Ouverture sur ces sujets. J'imagine, tu me disais que tu avais écouté tous les épisodes, donc c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. Tu as réussi à nommer et à définir, toi, ton orientation. Et ce que tu m'as dit, j'ai relu que c'est pas quelque chose qu'on choisit.
Non.
Et que c'est pas, voilà, c'est pas juste un... Voilà, comment dirais-je, une particularité à se poser en se disant, bon, alors moi, je suis plutôt ci, plutôt ça. Là, c'est vraiment... Ça s'est imposé à toi.
Oui, c'est pas une décision.
C'est pas une décision.
De la même manière que tu décides pas d'être homosexuel, hétérosexuel, j'ai pas choisi d'être asexuel. Je l'ai compris, ça m'a mis beaucoup de temps.
J'imagine.
En fait, j'ai commencé à mettre un mot dessus et à comprendre ce que je pouvais vivre autour de la quarantaine. C'est récent. C'est récent et même dans le couple. Tu vois, aujourd'hui, quand je te dis vers la quarantaine, je vais prendre 45 ans là. Même dans le couple, ça bouge encore. Et il y a eu. Ça a été compliqué dans le couple et ça reste un sujet aujourd'hui. Un sujet.
Qui est délicat,
Qui est délicat et qui colore la relation, forcément. Et qui aussi dit des choses pour la suite. Enfin. Aujourd'hui, clairement, moi, j'impose une abstinence à mon épouse.
Ok.
Et donc, elle l'accepte.
Parce qu'elle
t'aime. Puisqu'elle reste avec moi. Et pour moi, c'est comme si, du fait que je lui impose ça, elle avait quand même un bon de sortie permanent.
T'as l'impression que toi, t'es un peu toujours en sursis par rapport à ça ?
Beaucoup moins aujourd'hui.
Là, t'es rassurée.
Parce que on en a parlé. Là, c'est vraiment posé entre nous.
Ok.
Mais quand j'ai mis un mot dessus et quand j'ai compris moi et quand des choses se sont alignées, et pour moi, c'était assez clair que du coup, maintenant que j'ai compris que j'acceptais cette asexualité, le fait de pas vouloir avoir de relations sexuelles.
Donc, c'est pour qu'on comprenne bien. Parce que c'est vrai que la sexualité, c'est assez récent, ce mot, dans dans notre société. Il y a des gens, effectivement, les libidos, elles peuvent être mouvantes. T'as des périodes où tu peux avoir beaucoup de libido, des périodes où tu peux ne pas en avoir, des périodes d'autosexualité où tu te suffis à toi-même. En étant hétéro, par exemple, on peut avoir un crush sur quelqu'un qui est du même sexe, donc du coup, on peut avoir une homosexualité fulgurante, je ne sais pas si ça existe, mais tu vois, tu peux avoir un crush, etc. Mais effectivement, comme c'est ce que tu décris, comme la sexualité, c'est vraiment quelque chose qui s'impose à toi. Et donc, ça se définit par un manque de désir charnel.
Oui. Ouais.
Ça n'a rien à voir avec l'amour et les sentiments.
Pas du tout.
Parce que tu aimes ta femme profondément et tu as eu des tu l'as expliqué, des romances avec ces jeunes femmes plus tôt. Mais effectivement, tu ressens pas l'envie de faire l'amour avec ta partenaire. Donc, c'est-à-dire que, pour que je comprenne, tu me dis hein, si c'est un peu trop, trop intime, mais par exemple, il n'y a pas d'excitation à voir ta partenaire nue ou dans une attitude, on va dire, comment je pourrais dire, je vais dire provocatrice, mais c'est un peu jugeant, mais en tout cas, voilà, il n'y a pas d'excitation pour ta partenaire.
En fait, peut y avoir, c'est ça qui est assez curieux, il peut y avoir une excitation, on va dire, mécanique.
Ok.
Voilà, donc il peut y avoir. On a pendant des années, on a fait l'amour. Mm-hmm. Ça se passait pas bien.
Ok. Ça se passait pas bien parce que c'était pas satisfaisant.
Ouais, ça se passait pas bien. En fait, pour rentrer quand même un peu dans les questions de sexualité, plus précisément, pour moi, j'ai toujours eu un problème d'éjaculation précoce.
Ok.
Tu vois, et je disais, bah, au départ, c'est ma sexualité est pas installée. Dans le sens où j'avais pas eu de relations longues. Les relations plus longues, comme je te disais, j'avais pas forcément de relations sexuelles avec mes partenaires.
Donc, du coup, ta première fois a été faite avec ta femme ?
Non.
Ou avant ?
Avant. D'accord. Avant, autour de la vingtaine.
Ok.
Avec, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, cette partenaire-là, on a eu des relations et puis après, assez rapidement, ça s'est arrêté parce qu'elle a eu des problèmes de santé gynéco.
Okay,
et on n'a plus pu faire l'amour. Mais déjà, tu vois, pour moi, ça ne se passait pas bien avec ces soucis-là. Mm-hmm. C'était un stress pour moi.
Oui, j'imagine.
Et quand j'y repensais, je te disais, j'ai eu aucune éducation sexuelle et j'ai gardé un truc très curieux en tête. J'écoutais Skyrock et j'ai entendu que quand les jeunes se masturbaient, ça pouvait provoquer l'éjaculation précoce derrière. Et
ah
je
bon
suis resté avec ce truc-là que j'ai entendu à la radio.
Incroyable.
Ouais. Alors, je sais pas d'où j'ai entendu ça, mais je l'ai entendu.
Ok, c'est
ancré. Et comme j'ai quand même découvert ma sexualité avec la masturbation.
J'allais te demander effectivement si la masturbation est rentrée dans ta vie. Ouais.
Ouais, je l'ai découvert, je pense même prépubère, un peu par hasard, okay, tout seul. Et je me suis construit avec cette conviction que de toute façon, moi j'allais être concerné par ça et que j'allais avoir ce problème-là.
Ah oui, donc du coup, c'était une espèce de prophétie réalisatrice, ouais, de se dire que. Ouais. Comme tu t'étais masturbé, tu étais éjaculateur précoce.
Ouais, ça allait m'arriver et forcément, ça m'est arrivé.
Okay.
Et ça m'arrivait et avec la difficulté d'en sortir.
C'est marrant d'avoir cristallisé ça. Quand tu découvres la masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques régulièrement quand tu es adolescent, etc.
Ouais, quand je le découvre, oui. Mais ça a pas une place oui, énorme. Et parce que, en fait, j'ai assez peu de fantasmes.
Okay.
J'ai peu d'images qui se construisent. Et je m'ennuie assez vite. En fait, je m'ennuie.
Okay.
Et du coup, l'excitation va plus passer par des images.
Donc, d'accord.
De besoin, tu vois,
soit visuel.
De voir. Ouais. Et c'est là où je te dis, par contre, ça reste une excitation assez mécanique.
Ok.
Mais il n'y a pas le plaisir derrière. J'ai pas cette sensation de plaisir qui traverse que j'entends les autres dire, même dans la masturbation ou dans l'acte sexuel.
Donc la masturbation, c'est plutôt libérateur, grosso modo,
ouais,
comme tu dis, mécanique,
ouais,
à un moment donné.
Libérateur
voilà.
De tension.
Oui, libérateur de tension, ouais, exactement. Mais effectivement, dans la relation sexuelle et dans l'éjaculation, il n'y a pas d'orgasme.
Non.
Est-ce que tu as cherché un peu à comprendre s'il y avait aussi peut-être un... Je te dis ça, j'en sais rien. Hein. Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport peut-être aussi chimique, biochimique ? Est-ce que c'est quelque chose que... pardon pour le jugement de valeur, mais que tu n'aurais pas d'un point de vue, tu vois, cérébral sur, tu vois, la libération de bonheur, de l'orgasme, de dopamine, de l'excitation
Je sais pas. J'ai fait un test... En fait, je vais pas répondre à ta question.
Ouais. Parce que t'as pas la réponse.
Je vais répondre un peu à côté.
Donc c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que ça pourrait, tu vois, parce que tu n'as pas parlé de traumatisme. C'est complexe, quoi, tu vois, à comprendre.
Tout ça, c'est des questions que je me suis posées.
J'imagine.
C'est des questions que je me suis posées. Dans le parcours, comme je te disais, pour moi, j'avais un problème avec la question de l'éjaculation précoce.
Ouais.
Donc assez rapidement. Tu vois, j'ai fait de la thérapie et assez rapidement, c'est un sujet que j'ai amené en thérapie. Mais toujours avec cette porte d'entrée, j'avais ce problème-là. Je suis allé voir des sexologues.
J'allais te poser cette question.
Voilà, donné, par exemple, fait faire des exercices, etc., etc.
Donc c'est quoi comme exercice par exemple? C'est
des exercices de respiration pour essayer d'arriver à mieux maîtriser l'excitation.
L'éjaculation. Parce que t'as plein d'hommes qui sont éjaculateurs précoces et qui ont des sexualités épanouies ou en tout cas qui trouvent des, tu vois, des petits tips. enfin, et voilà, c'est pas incompatible avec une sexualité épanouie. Ça a fonctionné, ces exercices?
Bah pas trop. Déjà, j'étais pas en couple.
Ouais, ça a du coup
c'est difficile.
oui, c'est pas.
Et après, non, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que j'étais persuadé, il y avait un truc vraiment dans le cerveau, je crois aussi. Et après, il y a peut-être une autre explication. Mais donc, en tout cas, quand je me suis mis en couple avec avec mon épouse, donc là, du coup, une histoire longue. Ça fait 15 ans qu'on est ensemble.
Ah oui.
C'est la sexualité, du coup, qui a le temps, qui devrait avoir le temps de s'installer, mais même ça, ça ne s'installe pas.
Ok.
Et donc, bah, on constate, hein, y a un problème. Et je lui dis, oui, moi, je sais que j'ai un problème, donc je retourne voir un thérapeute, un sexologue, et ma demande, elle est, voilà, j'ai un problème d'éjaculation précoce. Et j'y vais tout seul. Et puis...
Tu ne définis pas exactement, en fait, à ce moment-là.
Mais en fait, pour moi, c'est mon problème à ce moment-là.
À aucun moment, tu te dis que c'est autre chose.
Exactement. Et... dans un échange avec mon épouse, à un moment, je lui raconte, parce qu'elle me dit, mais il n'y a rien qui change, ça ne sert à rien ce que tu fais, et c'est vraiment problématique.
Elle, elle avait eu d'autres histoires avant,
oui.
Donc elle est capable de comparer aussi l'attitude au-delà de, on va dire, du coït prosaïquement, tu vois. Il y a l'attitude aussi de désir dans un couple au début d'une relation. Bon, 15 ans, effectivement, ça commence à faire et tout ça. Mais au début de la relation, il y a quand même une tu vois, alors évidemment, encore une fois, ça dépend vraiment des gens, mais t'as quand même une forme d'attirance. Il y a beaucoup de, c'est très charnel. Il y a une séduction très forte. Il y a un désir très fort. Ça, c'est quelque chose que toi, tu n'avais pas, que tu n'exprimais pas. Elle a peut-être, alors peut-être qu'effectivement, avec beaucoup de subtilité et de délicatesse, elle a pas trop posé, mais elle a dû se rendre compte que c'était différent par rapport à ses autres partenaires.
Bien sûr. Et c'est là où il y avait un écart entre moi, ce que j'avais identifié comme mon problème.
Ton petit problème, finalement, d'éjaculation précoce qui est commun.
Et quand je lui disais que j'allais traiter ça, moi, c'était ça que j'allais traiter. Mais à un moment, quand elle s'est rendue compte que quand j'allais chez le sexologue, c'était ce problème-là que je traitais, elle m'a dit, mais c'est pas ça le problème.
Ouais, tu t'es mis vraiment un voile.
Le problème, c'est une question de désir.
Ouais. Ouais.
Et là, moi, j'ai fait...
Ouais, t'as bloqué.
J'ai bloqué, tu vois, exactement comme là. Je bloque. Ah.
Et tu t'es jamais posé la question.
Et ça change. Ah, bah non, je me suis jamais posé la question parce que pour moi.
Oui, c'est ta réalité,
c'est ton reste. On est censé sentir autre chose. Ah, bah, j'en sais rien en fait. Et n'en ayant jamais discuté avec personne, j'en ai discuté alors à la fois parce que c'est peut-être difficile pour moi de parler de ce que je ressens, mon intimité et
évidemment.
Tout. Mais aussi peut-être parce que. Je savais pas comment on parlait, etc. Mais
bien sûr.
Du coup, nous voilà avec ça. Et à ce moment-là, pour revenir à ta question, on est allé voir une sexologue à deux.
Pour qu'elle exprime aussi elle, de son côté.
Et elle m'a fait faire des examens pour tester la testostérone.
C'est ce que j'allais te dire. C'est qu'il y a aussi un vrai enjeu là-dedans.
Ouais. Et normal, taux normal.
Oui, vu ta barbe, je pense que ça se passe bien.
Pas de souci de ce côté-là. Et ça a acté. Pour moi, là, ça a acté, voilà. Alors, je comprenais qu'il y avait une question d'absence de désir. Elle m'a dit, maintenant, tu pourrais prendre rendez-vous avec un andrologue pour essayer de voir faire des tests, etc. Et en fait, là, moi, j'ai dit non.
Pourquoi
t'as
dit
non? Parce que je commençais à découvrir et ça commençait à faire un peu partie de mon identité, de qui j'étais.
Oui, parce que ça définit aussi des traits de caractère.
Et j'avais pas envie de médicaliser ça et de me dire je suis malade.
Bah, c'est comme.
Comme les homosexuels, tu vois. Je faisais un peu le parallèle en disant on le choisit pas. Et comme c'est pas une maladie d'être homosexuel, pour moi, là, c'est pas une maladie de pas avoir de désir.
Est-ce que tu t'es posé assez naïvement, pardon pour la question un peu frontale, si tu étais peut-être homosexuel?
Ouais, je me le suis posé, j'ai eu très peu... en fait, je me le suis posé de façon indirecte et on m'a invité à me la poser. C'était assez drôle. Pendant, entre 20 et 25 ans, quand tu es censé avoir plein d'expériences, plein de copines, être très, enfin, et j'en avais peu, en fait. Et l'entourage commençait à suggérer, ouais, mais peut-être que t'es homosexuel, tu fais un déni, et du coup, je me suis posé la question. Je me la suis vraiment posée.
Bah oui.
Et je suis arrivé à l'idée que peut-être, j'en sais rien, tu vois, un peu comme tu disais, on est tous un peu, ouais, on est tous bi, mais en tout cas que j'avais jamais été attiré par un homme.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que le désir, c'est pas un désir fin pour les femmes et un vrai désir pour les hommes, parce que si t'as écouté les épisodes, t'as des hommes bi ou même homo qui, dans leur jeunesse, voilà, à un moment donné, ils vont vers les filles parce que sinon c'est pas envisageable autrement. Mais par contre, quand dans le porno, on regarde d'un œil, tu vois, et puis on regarde vraiment beaucoup le mec. Et puis finalement, au bout d'un moment, et du coup, le désir, il va se porter chez, ouais, les hommes, même si socialement on est avec des filles, etc. Ils se rendent compte parce qu'ils ont un peu les mêmes mots que tu employais, où il y avait un petit décalage, où ils sentaient que. Mais toi, effectivement, que ce soit un homme, une femme, et sur tout le pan du genre, en fait, le désir n'existe pas. Le désir sexuel, en tout cas, pardon, non, précisons bien, le désir sexuel n'existe pas. L'envie de faire l'amour n'existe pas.
Non. Par contre, aujourd'hui, je t'assure, je peux assurer, j'en suis sûr, moi, que je suis attiré par les femmes. C'est les femmes qui m'attirent aujourd'hui.
Romantiquement.
Ouais, romantiquement.
Le physique, la beauté d'une femme, c'est ce qui te touche.
Ouais.
Mais pas l'envie de faire l'amour.
Exactement.
Donc du coup, effectivement, tu as toutes ces questions sur l'orientation homo-hétéro 20-25 ans. Bon bah, tu sais que c'est les femmes que tu aimes, ouais, mais que t'es pas c'est une phrase que je n'aime pas trop, mais qui est assez. Tu n'es pas très porté sur la chose.
Non.
Donc ça, bon bah, c'est ok. Il y a des gens, tu deals avec. Et c'est à la rencontre. Donc tu rencontres ton épouse autour de la petite trentaine. Et c'est elle qui va te dire, non, mon gars, c'est pas juste un problème mécanique, mais à un moment donné, on va aller voir un peu plus loin. Donc, tu fais tes différents tests. Ce n'est pas un problème biologique de manque de testostérone.
Non, ça c'est
donc,
sûr, on l'a testé.
Il n'y a pas eu un traumatisme qui a bloqué quoi que ce soit.
Eh bien, je suis allé interroger mes parents. Tu vois, avec
dans ta quête
mon épouse m'a demandé. Mais est-ce
elle
que
a
ce
eu
serait en réaction, un traumatisme, quelque chose qui bloque? Et là-dessus, moi, j'ai pas souvenir. Tu vois, quand j'entends des témoignages de gens qui se remémorent autour de la quarantaine, la cinquantaine, des choses qui leur sont arrivées, des fois, je me dis, et si ça allait m'arriver? Alors, c'est pas impossible, mais pour éviter ça, je suis allé interroger mes parents.
Ouais.
Et eux me disent, non, à notre connaissance, il ne s'est rien passé dans ton enfance.
Est-ce que toi, dans ton instinct, si tu arrives à vraiment être dans une espèce d'introspection personnelle et intime, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose?
Non.
Tu vois?
Non, c'est... aujourd'hui, non.
Après, il y a des techniques,
L'EMDR?
Ouais, c'est ça, merci.
J'ai essayé.
T'as essayé?
Ouais.
Et il n'y a rien qui est sorti. Parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de savoir aussi, toi, au fond de toi, de façon très instinctive, est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose? Si pour toi, en fait, est-ce que ça a été soulageant quand tu t'es dit que tu étais asexuel?
Oui.
J'ai
un peu relu tout mon parcours, ce que j'avais vécu, et je comprenais mieux.
Il y avait une cohérence.
Et ça, une cohérence, et ça m'a permis beaucoup plus et beaucoup mieux m'accepter. Et encore aujourd'hui, et de me respecter, en fait, aujourd'hui, ça me permet de me respecter.
Ah ouais,
et c'est ça où je te disais tout à l'heure, j'impose à ma femme une abstinence. C'est déséquilibré dans un couple quand tu imposes ça, alors que elle, la sexualité, c'est quelque chose qui est même constitutif du couple.
Ok.
Tu vois, c'est
ce que j'allais te demander,
c'est
ce que ta partenaire.
Ouais, pour elle, c'est. On en a discuté, mais pour elle, c'est inconcevable un couple sans sexualité. Et moi, je lui impose cette abstinence.
Parce que tu n'y prends pas de plaisir, parce que tu n'apprécies pas, parce que ce n'est pas quelque chose qui te... Et j'imagine que si vous êtes rentré dans toutes ces discussions, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'ouverture d'esprit de l'un et de l'autre, et que j'imagine que ta femme respecte ton consentement, ton envie, et donc ne peut pas te l'imposer.
C'est un mot important, la question du respect.
Ouais.
Et la question du consentement, c'est quelque chose sur lequel je suis sensible aujourd'hui, en fait. Parce que c'est ça, quand je parle de me respecter, moi, c'est comme si j'avais toujours été consentant consciemment.
Ouais.
Tu vois, j'ai toujours accepté quand j'ai eu des relations sexuelles, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, c'est comme si au fond de moi-même, mon corps n'était pas si consentant que ça. Et avec le recul,
ouais.
La question de l'éjaculation précoce, je me demande si ce n'est pas pour moi une réaction de défense. C'est un moyen pour que ça se termine le plus vite possible.
Oui, parce qu'effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que si ton orientation constitutionnelle est la sexualité, tu es allé à l'encontre de ce que tu es profondément. Mmh. Donc effectivement, ça peut s'entendre. Il y a eu, pareil, à ce micro, des hommes homosexuels qui ont eu des relations avec des femmes, pas tous, hein, bien sûr, je mets pas tous les hommes homosexuels dans le même panier, mais qui ont eu des relations avec des femmes satisfaisantes, mais au fond d'eux, il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, tu vois. Mmh. Donc c'est un peu ça aussi, ce dont tu parles, ça fait écho justement au respect de son entité et de qui on est. Donc aujourd'hui, effectivement, tu as nommé ton orientation sexuelle, qui est la sexualité. J'imagine que tu as lu pas mal de choses dessus. Il y a des témoignages, il y a pas mal de... Il y avait une jeune femme qui avait pris la parole dessus et qui avait aussi...
Un podcast.
Ouais, qui a fait un podcast et qui a fait un enfant toute seule, j'ai vu aussi, oui, etc. Ouais, ouais. Et qui expliquait qu'on pouvait être asexuel et parent et tout ça, c'était assez intéressant.
Oui.
J'imagine qu'avoir d'autres personnes qui en parlent librement, ça a dû aussi beaucoup nourrir, toi, ta réflexion.
Oui, j'ai écouté les podcasts, j'ai lu quelques articles sur internet, j'ai jamais rencontré, tu vois, ouais. Je suis pas allé jusqu'à intégrer une communauté asexuelle.
T'en aurais besoin ou...
Bah non. C'est à la fois, je me, tu vois, quand j'ai mis un mot dessus, pour moi c'était important et ça m'a un peu, c'est comme si ça m'avait apaisé.
Ouais, ça soulage quelque chose.
Mais il n'y a pas de quelque chose où j'ai envie de revendiquer, de faire partie d'une communauté. Et je suis allé, tu vois, c'est super récent, cette année-là, à la marche LGBTQIA.
QIA+.
AIA+, ouais. Et j'étais content d'y aller.
Ouais.
Je ne me sentais pas faire partie de cette communauté-là, même s'il y a le A de asexuel. Et je m'y sentais légitime parce que ma sexualité, je sens qu'elle est représentée, mais elle est aussi en dehors de la norme. Et ce courant-là, c'est à un moment, c'est aussi pour revendiquer de dire qu'il n'y a pas que la norme qui existe.
Oui, exactement.
Et y a plein de formes de sexualité différentes aussi qui existent. Oui, et elles ont droit d'exister autant que les autres.
Ouais, ouais, ça c'est effectivement, je pense que c'est très important de notifier, c'est que il y a aussi maintenant l'existence reconnue de la sexualité comme une orientation sexuelle. Donc ça, effectivement, je pense que c'est libérateur. Après, effectivement, pour certaines personnes, la sexualité fait partie de la personnalité et quelque chose d'exprimer. On a aussi le droit de ne pas exprimer sa sexualité, de ne pas raconter qui on est, de se définir par sa sexualité, ça c'est propre à chacun. Mm. Et t'as tout à fait le droit d'embrasser cette orientation et de l'assumer dans ton cercle très intime, mais t'es pas obligé de brandir, tu vois. Donc aujourd'hui, depuis donc 15 ans, tu es avec ton épouse, vous avez réussi ensemble à définir, j'imagine, hein, ça a créé des moments de tension entre vous.
Alors, ça en a beaucoup créé.
Ouais.
Ça en a beaucoup créé. À la fois parce que pour elle, c'est absence de sexualité alors qu'il y a du désir.
Ouais.
Et aussi parce que c'est difficile de ne pas avoir son partenaire qui fait montre de désir pour soi. Et qui, mais en fait, normalement, l'attirance, l'amour passe aussi par là. Et le fait que je l'exprime pas, pour elle, ça a interrogé en disant « Mais est-ce qu'il m'aime vraiment, en fait ? Est-ce qu'il est authentique ?» Tu vois, ouais, ça a beaucoup interrogé là-dessus.
J'allais te poser la question en tant que femme. Moi, je me pose la question, est-ce que ça n'a pas été difficile dans sa féminité à elle ?
Bah oui.
Parce que quand ton partenaire ne te désire pas, c'est vrai qu'en plus, nous, les femmes, on était assez conditionnés à exister dans le regard de l'homme, dans le désir des hommes. Du coup, dans son couple, comment elle fait pour gérer ça ?
Ça, tu vois, j'ai de la difficulté à répondre.
Ouais.
Pour moi, c'est difficile. C'est difficile. On a pu échanger à un moment de savoir est-ce que on ouvrait la possibilité pour elle d'aller avoir d'autres expériences en dehors du couple. Mais c'est pas envisageable pour elle,
parce, tu vois. Parce que c'est
alors moi, je sais pas, Je sais pas si je le supporterais. Je sais pas comment je le vivrais. Je disais, peut-être qu'il faut que je l'accepte parce que moi, je lui impose quelque chose qu'elle a pas choisi. Donc, on en a parlé, mais pour elle, c'est pas envisageable. Parce pour elle, le couple, c'est vraiment le... On sort pas du couple, même pour la sexualité, même quand il n'y en a pas à l'intérieur. Donc, c'est...
Tu culpabilises ?
Ouais, il y a une part. C'est comme si j'avais une dette envers elle.
Je comprends. Donc, tu dois être un mari parfait.
Pas du tout, en plus, c'est ça qui est horrible.
Mais non. Tu pourrais compenser en étant un mari parfait, l'amasser tous les jours. Tu vois la
courbe. Il faut que tu coupes ça, cette partie-là.
Donc du coup, tu culpabilises, j'imagine. Mais vous avez quand même réfléchi à ouvrir le couple. Et ça, c'est pas quelque chose qu'elle
souhaite.
C'est
pas une option qu'elle a souhaité prendre.
Wow.
Et je sais pas si je l'en remercie, mais... tu vois, avec le recul, je pense que ça aurait certainement fait exploser notre couple aussi. Donc,
tu penses pas que maintenant que t'es beaucoup plus solide sur ça ? Parce que jusqu'à maintenant, comme tu disais, c'est assez récent finalement la définition de ton orientation et de qui tu es par rapport à ça, et donc quelles sont tes limites, quels sont tes non-besoins. Parce que ça aurait pu être, on va transposer dans une autre réalité, tu aurais pu être bisexuel, très heureux avec ton épouse, et avoir besoin, avoir envie de temps en temps d'avoir des rapports avec des hommes. Est-ce que dans ce cas-là, tu vois, vous auriez ouvert votre couple pour que tu puisses, tu vois, toi, avoir une sexualité complètement épanouie ? Peut-être. Donc c'est vrai que c'est intéressant de se rendre compte qu'elle, même si ça a été évoqué, c'est pas quelque chose dont elle a besoin parce que c'est avec toi qu'elle a envie d'avoir la sexualité.
Ouais.
Donc aujourd'hui, quelles sont vos options ?
C'est en fait, à chaque fois qu'on en a discuté, elle me pose cette question-là, mais j'ai pas de réponse. Et aujourd'hui, la seule la réponse qu'elle a et qu'elle tient entre ses mains, c'est « Ok, j'accepte cet état de fait et je poursuis notre couple, on poursuit notre route ensemble parce qu'elle veut bien l'accepter. » Mais le jour où elle ne veut plus l'accepter, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, tu vois, là, quand je te disais, elle a un bon de sortie, c'est ça. C'est soit... Moi, je rogne sur ce qui est super important pour moi en termes de respect, de me respecter moi.
C'est ce que j'allais te dire, et je vais citer Rubin qui l'avait dit, ne doit être fidèle qu'à soi-même.
Ouais.
Donc effectivement, si toi, tes besoins et qui tu es sont ne pas avoir de sexualité, et en plus tu lui mens pas dans le sens où ça y est, c'est établi dans votre couple, on avait communiqué, elle le sait, elle deal avec. Maintenant, effectivement, qu'est-ce qu'elle en fait ? Et ça, oui, je comprends qu'effectivement, tu parles de bon de sortie. Vous en parlez régulièrement ?
On en a parlé beaucoup plus régulièrement. Et puis, la dernière discussion, vraiment, là, maintenant, elle date peut-être un an et demi, où j'ai dit, pour la première fois, je pense très clairement, j'ai posé en disant, en fait, moi, c'est qui je suis. Et c'est comme ça aujourd'hui que je vais vivre.
Oui, c'est pas une période, c'est pas un moment de down, c'est pas en ce moment ça va pas, c'est vraiment je suis ainsi fait.
Oui. Et en fait, c'est comme ça. Donc maintenant, soit on deal avec tous les deux, mais je vais pas te faire croire que ça va changer. Je vais pas te dire que, en fait, même si. Je disais je fais un effort, c'est horrible de dire ça, mais même si je disais je fais un effort et de temps en temps on fait de la sexualité, ça a jamais été satisfaisant ni pour elle ni pour moi, même quand on l'a fait, parce que pendant plusieurs années on a eu de la sexualité, mais
c'est presque plus frustrant pour elle,
carrément. Mais ça l'est pour elle, ça l'est pour moi, il n'y a aucune satisfaction. Donc si c'est pour retourner là, en fait, on est tous les deux perdants.
Oui, surtout là, pour le coup, effectivement, toi, tu rajoutes à ça que tu te mens à toi-même, que tu es dans quelque chose qui ne te ressemble pas. Ce n'est pas qui tu es, comme tu expliques. Et tu vis ce moment avec encore plus de, j'imagine, de difficultés. Quoi.
C'est, tu vois, il y a vraiment différentes formes d'asexualité. Il y a des personnes pour qui c'est OK. C'est-à-dire, elles savent qu'elles n'ont pas, elles n'ont pas envie, elles n'ont pas cette attirance, mais c'est OK pour elles.
J'ai vu une jeune femme qui en parlait de temps en temps, qui a un rapport sexuel et qui est satisfaisant pour elle. Et...
Exact. Et ils ont dealé comme ça dans le couple.
Ouais.
Et c'est OK. Moi, aujourd'hui, j'en suis pas là et je peux pas dire que demain, je serai capable de ça.
OK.
Donc, j'ai un peu posé, bah, voilà moi où j'en suis et je vais pas m'engager à dire que ça va changer ça. Et je préfère que ça fasse partie et qu'on se dise aujourd'hui, OK, bah, ça fait partie de notre couple, c'est nous. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et clairement, la question, c'était bah, la seule option, c'est on arrête là.
Et là
aujourd'hui, la seule option que
pour qu'elle vive une sexualité, c'est qu'effectivement votre couple s'arrête. Ouais.
À partir du moment où on dit on n'ouvre pas, elle n'ouvre pas la possibilité d'avoir de la sexualité en dehors de notre couple, et bah, c'est tout. Il n'y a pas d'autre option.
Et t'es prêt à ce que ça arrive? Un jour.
Quand tu dis ça, c'est quoi? C'est que ça s'arrête ou qu'elle
s'en
aille?
Qu'elle s'en aille.
Bah ouais, il faut que j'accepte.
Ouais.
C'est au moins la chose que je lui dois. C'est que si demain elle me dit non, moi c'est plus possible, bah, que je l'accepte. Et c'est pas évident.
J'imagine. C'est pas évident. J'imagine qu'effectivement ce sont des décisions qui sont lourdes et surtout qui, comme tu dis, qui pour que tout le monde soit dans le respect de soi, de ses envies, de qui il est. Effectivement, il y a cette issue, elle est envisageable et ça doit effectivement être douloureux. Aujourd'hui, l'amour est plus fort. Vos sentiments amoureux sont forts.
Ouais, ce qui nous unit, oui, c'est
ce
fort.
Que vous avez
parce
construit...
que ce qu'on a traversé aussi.
Ouais.
Le couple aurait pu voler en éclats.
Bien sûr.
Au tout début, à tous les moments de notre parcours.
Oui, bah toi, t'as eu un moment de déni. Il y a eu, enfin, il y a plein de choses qui ont dû être effectivement difficiles à vivre. Est-ce qu'il y a plein d'autres terrains sur lesquels vous êtes vous prenez du plaisir autrement? Parce qu'il y a d'autres, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses dans votre quotidien qui vous apportent aussi de la satisfaction.
Ouais, on partage beaucoup de choses après, des intérêts communs, et ça nous rapproche.
Ouais.
Et il nous faut ça.
J'imagine.
Il nous faut ça,
moi, j'avais une question sur comment on vit dans une société aussi sexualisée, quand on n'est pas intéressé par la sexualité?
Bah, le sentiment d'être un côté un peu à côté.
Parce qu'il y a de la sexualité partout.
Bah, il y a de la sexualité partout.
En fait, quand on...
Oui.
Enfin, les séries, les films, la pub, ouais. Enfin, les sous-entendus, les blagues.
Tu vois, c'est... J'ai pas d'aversion. Je suis
oui,
pas
bien
dégoûté.
Sûr. Non,
je suis
pas,
pas
oui,
dégoûté
t'es
par,
pas rejeté,
par
du
la
tout.
Sexualité. Voir une femme nue, je trouve ça beau.
Oui.
Et comme je te disais, il y a quand même une excitation physique. Donc
oui.
Ça, j'ai pas de souci avec ça. C'est juste que c'est peut-être la masculinité toxique ou la masculinité qui sont un peu plus compliquées pour moi. Et je vois, tu vois, quand je regarde un peu le parcours, j'ai eu des amis, garçons, mecs, jusque à l'entrée de la fac.
Mmh.
Bah, mon grand pote.
Mmh.
Après, j'ai eu des potes avec qui je faisais du sport et tout. À la fac aussi, un ou deux potes. Et après, à partir d'un moment, j'ai rencontré au travail quelqu'un qui est devenu une amie, où on a pu parler vraiment d'intimité. Alors, elle parlait assez... elle n'avait pas de sexualité non plus, mais elle en parlait assez librement. Elle racontait des blagues.
Mmh.
Et puis après, j'ai compris où elle m'a laissé entendre qu'elle avait eu un traumatisme étant enfant.
Mm-hmm.
C'est elle qui m'a fait découvrir la psychothérapie, ce qu'on pouvait y faire,
d'accord,
ce que ça apportait, et elle m'a ouvert tout ce champ et je l'en remercierai jamais assez.
Oui, qui t'a permis aussi toi de construire à travers ça aussi. Ouais.
Et en fait, c'est la première amie femme que j'ai eue, c'est la première personne, même si tu vois, que quand je te disais, je parlais pas d'intimité
avec
mes potes.
Tu en as parlé,
j'en parlais pas en famille, j'en parlais pas avec mes sœurs. Et en fait, avec elle, ça a été la première fois. Et depuis, tu vois, j'ai réfléchi et tout. Et je me suis jamais refait de potes hommes et je me fais que des potes femmes. Ouais. Et alors, ça, du coup, aussi, c'est pas évident dans le couple.
Ah oui. Oui, après, bon, ta
femme...
Tu vois,
parce qu'en plus, quand je dis que, bah tiens, je vais aller boire un coup, c'est toujours avec
une femme.
Et pour moi, les relations sont toujours aussi beaucoup plus faciles en face à face plutôt qu'au sein d'un groupe. Je pense mal à l'aise.
Bah après, c'est ce que tu le disais au début, tu es assez introverti. T'es pas quelqu'un qui est très à l'aise dans le groupe et dans le. T'as besoin du cadre plus rassurant, du one-to-one, quoi.
Et en y repensant, tu vois, j'ai une scène en particulier où on était. C'était chez des amis de mes parents, on était plusieurs ados, je sais pas quel âge on avait, 16-17. Et tout le monde commençait à se raconter un peu ses histoires, ce qu'il ressentait et tout. Et c'était la panique pour moi. Ouais. Et tu vois, c'est là ce retrait. J'étais aussi... mais je ne peux pas raconter ce que je vis, je ne peux pas. Et c'est aussi, je pense, je me suis construit comme ça par rapport au groupe, où le groupe est super inconfortable pour moi. Le moment où les yeux se tournent vers moi et où on me dit « Et toi ?» Bah là, je sens la panique.
Ouais, ouais. Il y a un truc de protection.
Et ça, je le garde, tu vois, je le garde. J'aime pas quand il y a trop de monde, je suis pas hyper à l'aise.
Donc les grands groupes de potes, que des hommes et tout ça, c'est pas du tout.
J'ai jamais eu ça.
Jamais. Mais oui, je peux comprendre effectivement qu'une masculinité ambiante avec effectivement, bah justement, il y a beaucoup d'enjeux de. Sur la sexualité, les choses comme ça. Après, tu sais, moi, ce qui me rassure et ça me conforte beaucoup, c'est que les générations de maintenant sont beaucoup moins comme ça. Mmh. Tu vois vraiment que, bah, typiquement, les amitiés garçons-filles sont beaucoup plus fluides, que les garçons parlent de leurs sentiments, de leurs ressentis, de leurs émotions, de leurs vulnérabilités de façon beaucoup plus facile. Et j'espère qu'on a un peu cette dernière génération à, tu vois, un peu tout encaisser. Et serrer les dents quand ça va pas. Et aujourd'hui, ouais, j'ai l'impression que les gens de 20, 25 ans, 30 ans sont bien plus à l'aise avec ça. Et tant mieux, tu vois.
Ouais, j'espère.
Parce que c'est vrai que j'ai croisé beaucoup d'hommes de ta génération qui, effectivement, le rapport amical entre un homme et une femme est peut-être problématique. Ne croient pas en l'amitié homme-femme parce qu'effectivement, il y a forcément... Ouais. Tu vois, une carte en plus alors que pas du tout. Enfin bref, ouais, je comprends ce que tu dis. C'est vrai qu'effectivement, l'écoute d'une femme, et surtout une femme comme ton amie qui a vécu elle-même des épisodes traumatisants et qui a du coup allé dans l'introspection et dans l'ouverture sur la psychothérapie, le développement personnel, ça a dû t'aider beaucoup, oui. Je pense que ça aurait été, d'une façon ou d'une autre, il serait sûrement arrivé parce que ça devait devenir assez invivable, tu vois. Même avec ton épouse, à un moment donné, vous auriez trouvé d'autres solutions. Oui. Mais c'est bien, effectivement, que tu as aussi des oreilles autres pour pouvoir en discuter. Après, je comprends aussi la frustration de ton épouse de se dire que tu partages avec ces femmes d'autres choses. Ouais.
Et ce qui rajoute aussi, c'est que je n'ai pas ce lien non plus dans le rapport homme-femme et la tension sexuelle qu'il peut y avoir, entre des personnes. Je ne l'ai pas.
C'est vrai.
Et en fait... je ressens pas quand je me fais draguer par une femme.
J'imagine. Je le ressens pas. Oui, je suis pas étonné.
Et inversement, tu vois, quand une femme pourrait avoir l'impression que je suis en train de la draguer, bah en fait non, je suis pas du
tout
en train
sympa.
De. Ouais, c'est ça. Où j'essaye de créer le lien parce que ça, pour le coup, c'est important pour moi, tu vois, d'arriver à créer le lien avec la personne et tout. Et alors, c'est difficile aussi pour ceux qui sont de l'extérieur. Et peut-être que je me suis mal fait comprendre aussi d'autres femmes à un moment qui ont cru peut-être que je cherchais autre chose dans la relation.
Que ton intérêt était sincère.
Ouais.
Que ta gentillesse était honnête.
C'est ça. Et inversement, tu vois, des fois pour mon épouse, ça a peut-être été un peu compliqué
à
me voir aussi, peut-être me faire draguer ou tout ça. Et en fait, comme
j'ai
dit aussi,
les gens pensent que t'es un gros séducteur, ça se trompe, que t'es un homme à femme, parce qu'en fait, juste t'es pas de. Ah, c'est ça l'image que tu dois avoir. T'es vraiment un mec, un Don Juan, alors que pas tant.
Et j'ai eu je t'ai parlé d'une amie peut-être un peu à la même période, j'ai eu une autre amie aussi très proche et on est parti, on partait faire de la rando ensemble, on faisait des week-ends et tout. Et je sais pas si tu vois les randos quand tu files l'itinérant, la taille de la tente.
Ah oui, on
tu vois, c'est la largeur de ton canapé.
Ouais, pas très.
Et donc
très...
on dormait dans la même tente. Et après, quand on faisait des week-ends, on prenait une chambre double. Et on dormait dans le même lit. Ensuite, elle venait chez moi, elle dormait dans. Et
ah oui, c'est vrai.
Il
n'y
a
ouais.
jamais rien eu entre
ouais,
nous,
mais
en fait.
C'est vrai. Ouais, c'est vrai que j'avoue.
Et
je...
de l'extérieur, les bah gens ouais. n'ont jamais compris cette relation-là. Et pour moi. Mais il n'y avait aucun problème. Il
ouais, n'y ouais.
avait rien d'ambigu.
Et pour elle non plus ?
Alors, bah, je ne sais pas.
Parce que...
Je vais mettre un point d'interrogation parce que pour moi, j'avais l'impression que non. Parce que si ça avait été ambigu, j'aurais pas pu continuer comme ça. Et elle me parlait beaucoup de ses histoires avec des mecs qui l'avaient quitté. Ou, enfin, voilà, elle en parlait aussi beaucoup. Donc, pour moi, il n'y avait pas du tout cette ambiguïté.
Ouais,
et
après,
puis...
l'intimité reste... Enfin, tu vois, même s'il n'y a pas, comme tu dis, de tension sexuelle, etc., ça reste l'intimité. Dormir près de quelqu'un, d'être dans son quotidien, y a la proximité, elle est quand même...
Mais on ne se touchait pas.
Passe une petite ligne, quand même, une petite frontière, tu vois, même...
J'étais célibataire à cette
époque-là.
Ah, t'étais
célibataire, j'avais
ah,
pas
oui.
compris, je croyais que t'étais avec ta femme.
Ah, mais jamais j'aurais fait ça pendant que j'étais
okay.
en couple.
Ok, c'est bon, d'accord, donc il y avait
non,
quand même
coup,
une petite...
Non, tout le monde
d'accord.
pensait qu'on était en couple,
ah, oui, d'accord.
Qu'on allait finir
mais je comprends,
en
mais je comprends voilà, aussi, voilà, je voilà. comprends aussi.
Voilà. Et c'est là où je dis
ah, bah,
la
oui.
question de l'ambiguïté, je sais pas si elle y était, parce que... Au moment où on s'est mariés, on a fait un mariage surprise
ouais.
et elle l'a appris en même temps que tout le monde. Et depuis ce moment-là, eh ben, le contact est perdu.
Tu veux vraiment qu'on on débatte sur le sujet ? Bah,
et
bah oui.
écoute, pour moi, je pourrais en débattre. Et pour mon épouse, non, il bah n'y a pas de débat. C'est
bah
bon. T'as la réponse à ta question
bah,
que tu t'es jamais posée.
Bien
en fait,
bien
hein.
sûr. Mais... Et puis c'est vrai que donner accès à cette intimité-là, homme ou femme, tu vois, c'est quand même un... Enfin, c'est important, tu vois. Donc oui, elle a quand même ouvert, même si effectivement c'était en douceur et peut-être même. Alors peut-être que effectivement c'était pas une relation. Elle avait peut-être. C'était peut-être votre relation qui était ainsi faite. Peut-être que ça lui suffisait, tu vois. Mais effectivement, elle a dû vivre quand même assez difficilement ton mariage, quand même. Oui. Christophe, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter dans cet échange?
Je
trouve que
non,
c'est chouette hein,
que
tu aies parlé de cette orientation
ouais.
qui a été jamais évoquée, je crois.
Non, j'écoutais, j'attendais le prochain épisode à chaque fois. Est-ce
ouais.
qu'on va en parler et pour moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup hésité à t'envoyer.
Ouais, t'as bien fait.
Je l'ai fait parce que je me suis dit, j'aurais bien voulu entendre quelqu'un qui puisse témoigner de ça.
C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a... La sexualité prend beaucoup de place dans son vide chez toi.
Mais carrément.
C'est,
mais
tu
en
vois.
Fait, elle est hyper présente depuis l'adolescence, en fait.
Ouais.
Mais
par
défaut.
Par obligation sociale aussi,
ouais.
par ce qu'on attend de toi.
Ouais, je pense que ça a beaucoup joué. Ça a beaucoup joué dans le parcours aussi, tu vois. Cette anormalité, tu vois. Je parlais de la normalité, c'est quoi la norme, mais tu sens cette pression quand même, et encore maintenant, tu vois. Tu disais, t'en parles dans tes sphères privées et tout. Non, j'en parle même pas dans mes sphères privées.
Ouais.
C'est juste mon épouse, on en parle tous les deux.
T'aimerais ne plus en parler?
Ouais, oui. Mais en même temps, tu vois, je suis dans un autre mouvement où bah, j'ai pris contact avec toi pour venir en témoigner. Il y a des personnes, je me dis, bah, j'aimerais bien en parler avec elles parce que tout ce parcours-là aujourd'hui aussi fait partie de moi. Il est important, comme tu dis, ça a pris énormément de place. Et je sens, tu vois, chez certaines personnes... Il y a une étrangeté, il y a quelque chose, des personnes qui ressentent qu'il y a un truc, quelque chose chez moi, je pense qu'ils les attirent, elles aimeraient bien savoir. Et à partir du moment où, tu vois, c'est des personnes avec qui tu lis un lien d'amitié, bah, je me dis, je pourrais en échanger avec elles. Aujourd'hui, je suis relativement posé, j'accepte, je commence à mieux comprendre qui je suis, donc bah ok, je peux y aller. Et pour autant, ça vient pas encore. Mais
c'est pas naturel encore.
C'est pas naturel. Et puis, comme tu dis, tu poses pas forcément comme ça les questions de parler de ta sexualité avec en plus des, je pense, tu vois, à nos âges aussi, tu parles un peu moins de sexualité. Autant quand tu te fais
ça
des
dépend.
Amis, bah, tu vois, voilà, moi.
Mais c'est un genre de coming out en fait.
Exactement, ouais, je le sens comme ça.
Ouais, ouais, je comprends. Comme ça.
Ouais, ouais, ce terme-là, il vient, mais est-ce que j'ai besoin, est-ce que j'en ai envie, je suis là-dessus. Et venir aussi pour moi t'en parler à ce micro-là.
Ouais, ça fait partie du chemin, ouais.
Et je me dis, tiens, tu vois, ça, j'espère en venant là, et c'est vraiment pas naturel pour moi de venir ici.
Je te remercie.
Et peut-être ça va créer un petit quelque chose et que ça va être peut-être une nouvelle étape, soit pour refermer, ou à la fois pour refermer quelque chose pour moi et à la fois pour ouvrir peut-être vers autre chose, vers les autres aussi.
Ah ouais, je comprends. Mais c'est vrai, et tu m'en parles, effectivement, quand tu es sexué, enfin, tu es sexué, certes, mais quand tu as une sexualité et que tu... Je peux comprendre que ce soit... qu'on s'interroge beaucoup, comment tu vis ça. C'est assez... évident, entre guillemets, de quand tu es hétéro, d'imaginer comment ça fonctionne pour des gens qui sont homo ou bi ou pan, etc. Mais quelqu'un qui, effectivement, n'a pas de désir sexuel, je peux comprendre l'interrogation. Et effectivement, depuis tout à l'heure, qu'on parle, je me demande, effectivement, comment tu évolues, effectivement, dans la société, comment tu vis... par exemple, tout le truc MeToo, pour toi, ça a dû être hallucinant de dire que parce qu'un homme désire tellement une femme qu'il va la forcer à faire quelque chose alors que au contraire, toi, t'es de l'autre côté du prisme. Ça doit être douloureux aussi quand tu dois exprimer aujourd'hui à ta femme et peut-être à d'autres partenaires que tu les aimes, que tu les trouves à ton goût, mais que tu ne les désires pas. Ça doit être très compliqué aussi, tu vois, trouver d'être élégant, mais pas te compromettre. Enfin, je peux comprendre qu'il y a eu un cheminement difficile, douloureux... Et si tu avais pu choisir, je pense que tu n'aurais pas choisi cette orientation.
Non. Ouais. Non, parce que ça simplifie rien du tout.
Ouais, je comprends.
C'est pas parce qu'il n'y a pas que c'est plus simple. Parce que je pense que la sexualité, ce n'est pas forcément non plus dans les couples quelque chose qui est forcément tout simple dans la durée. Hein,
ouais, bien sûr.
Au moins, tu vois, c'est des choses à gérer. Mais du coup, c'est pas parce qu'il n'y en a pas qu'il n'y a pas non plus de difficultés. Et ouais, non, j'aurais pas. Je pense pas que j'aurais choisi. Je serais allé dans la norme, tu vois. Pour passer inaperçu, tranquille, pas de vagues.
Et
être comme tout le monde. Ouais.
Je comprends. Quel sera le mot de la fin, mon cher Christophe?
Ce serait en lien avec ça, tu sais, entre ce que la société attend de toi et être attentif à ce que toi tu ressens vraiment. Je pense que découvrir ça autour de la quarantaine, c'est tard. Je sais pas si j'avais été plus attentif à ce que j'avais ressenti, à pas rester sur des idées. Est-ce que le cheminement aurait été plus rapide? En tout cas, s'il y avait un mot, peut-être, ce serait essayer d'arriver à se sortir de ces injonctions à la sexualité, à l'hétérosexualité, à la normalité, enfin à toutes ces injonctions-là, et essayer de se centrer sur soi, sur ce qu'on ressent et se trouver. Mais tu vois, j'en parle, mais c'est rétrospectif, j'ai pas réussi à le faire et je me dis est-ce que c'est possible, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, se centrer sur soi, moi c'est à un moment c'est ce qui a été nécessaire pour moi, d'essayer de voir ce que je ressentais là en fait.
Bah, merci infiniment.
Merci à toi.
Merci pour votre écoute et merci à Christophe pour cet épisode qui j'espère vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de On the Verge.
The secret to summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil, clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Its signature scent of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at OseaMalibu.com.